Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h51, on sent que vous avez envie de vous exprimer aujourd'hui. 0826-300-300, n'hésitez pas à nous appeler, nous parler de votre actualité et des sujets qui vous concernent et qui vous intéressent, dont vous souhaiteriez débattre avec Alexis Poulain ce matin et Elisabeth Lévy.
Oui, et puis dans quelques minutes, on ira aussi du côté de Montauban, parce que beaucoup d'agriculteurs sont en train de monter sur leur tracteur. Ils vont défiler vers 10h. Alors, c'est particulièrement intéressante parce que bien souvent les agriculteurs, quand ils manifestent, vous le savez, Alexis Poulain, c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir de meilleurs revenus, parce que les prix ne sont pas payés. Et là, ils dénoncent aussi une pression continuelle des gens qui défendent l'environnement, des environnementalistes, comme ils disent, quoi. Et des réglementations qui s'accumulent, et eux n'en peuvent plus, et c'est le fameux agri-bashing. On aura un de leurs représentants, en fait, dans un instant, pour en discuter, parce que c'est particulièrement, effectivement, intéressant. Alors, il y a ce sondage, quand même, hier, un peu chamboule-tout. Hein. Le premier chamboule-tout de cette campagne, c'était quand même Éric Zemmour, au mois de septembre, là. Il a créé la surprise, on disait, oui, il va faire 3-4% s'il se présente, boum, il est passé à 15% dans les intentions de vote. Valérie Pécresse désignée ce week-end. Et puis alors, c'est la foire au sondage, quoi, là. Voilà. Et elle se retrouve dans le dernier sondage Elab hier à 20%, et elle battrait Emmanuel Macron à 52%. Je sais pas ce que ça vous inspire chez vous, 0826-300-300. En tout cas, on va en parler avec Elisabeth et vous, Alexis. Hein.
Bah oui, c'est attention à la bulle, parce que les sondages à quelques mois de la présidentielle, c'est jamais des sondages qui donnent le candidat, mais ça donne une température, c'est ce que je disais ce matin. C'est-à-dire qu'on voit bien que de toute façon, le débat pour cette présidentielle de 2022 s'est décalé sur la droite, hein, sur les thèmes de la sécurité, sur les thèmes de l'immigration aussi, sur les thèmes du régalien, parce qu'Emmanuel Macron a été très faible là-dessus, son bilan est très faible. Il essaye bien sûr de le maquiller, d'essayer de colmater les brèches, mais on voit bien que derrière, à la fois la candidate LR, mais aussi le succès d'Éric Zemmour et le bloc qu'on dit le camp national, c'est quand même cumulé beaucoup plus de pourcentage que la gauche émiettée qui est à 24%,
la
qui
gauche,
péniblement
mais...
arrive à 24%. Enfin, quand on voit que ce soit...
comme le disait Guy Carlier tout à l'heure avec Humour, Hidalgo, elle est en train de creuser, elle va trouver du pétrole.
3%, 2% pour Montebourg, c'est des campagnes qui n'existent pas. C'est des gens qui ne font pas campagne. Même Yannick Jadot, j'ai du mal à voir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, où sont les déplacements, où sont les meetings. On a l'impression qu'à gauche, à part Jean-Luc Mélenchon, ça ne fait pas campagne.
C'est vrai.
C'est étonnant quand même. Donc soit ils ont décidé de s'auto-débrancher avant que ça commence, soit ils pensent qu'une campagne, ça se fait sans battre le terrain, sans
rajouter les foules. Elisabeth Lévy, quel est votre sentiment ?
Écoutez, il a fallu... Non mais si la gauche, c'est Anne Hidalgo, excusez-moi, effectivement, elle est promise à disparition, parce qu'il a fallu une élection où il y a eu une abstention absolument massive à Paris pour qu'elle soit élue avec 17% des inscrits. Les problèmes que l'on a connus entre Benjamin Griveaux, vous vous rappelez, et Agnès Buzyn. Écoutez, l'extrait qu'a passé Guy Carlier ce matin, si vous voulez, est sidérant. C'est-à-dire le niveau est vraiment terrible. Et je vous ai envoyé, j'ai regardé pendant que Guy Carlier parlait, j'ai trouvé aussi un truc de campagne d'Hidalgo où il y a écrit il est question des parrainages avec deux N, c'est-à-dire ces gens-là sont même pas fichus d'écrire en français. C'est vraiment un mépris
même
des électeurs.
De
puis bon. Mais juste un mot sur les sondages. Valérie Pécresse vient d'être élue. En fait, en plus, je pense que beaucoup de gens se disent, pour faire moderne, il faut que j'ai l'air de vouloir élire une femme. Alors peut-être que ça va se confirmer. Mais ces sondages faits juste après les élections, à sa nomination, ça rappelle un peu celui de Benoît Hamon. À la même époque, il y a 5 ans, hein. Il avait d'excellents sondages.
Il avait eu d'excellents sondages juste
terminé.
Après. Oui, c'est vrai.
Il avait donc, effectivement, et de même, d'ailleurs, il faut dire aussi
aux partisans
d'Éric
Zemmour,
qui se sont, il faut dire aussi aux partisans d'Éric Zemmour, si vous voulez, qui se sont emballés avec les premiers sondages, effectivement, il y a une question, il y a une espèce d'effet de nouveauté qui fait plaisir aux gens, ce que je comprends très bien. Donc, je crois, là, vraiment,
tout de même,
commenté toute la journée ce sondage hier était un peu excessif, même si vous avez raison, c'est la première fois qu'un sondage. Oui, mais
on ne donnait pas. Écoutez, on ne donnait pas. Et maintenant, mais Elisabeth, Alexis Poulain, j'aimerais aussi votre avis. On ne donnait pas Emmanuel Macron battu. Hein, c'était quand même voilà, c'était rare et personne.
Et là
pour la première fois. Donc ça veut dire qu'il est. Ça veut dire aussi qu'il est battable, quoi.
Est totalement battable. Enfin, s'il ne se sort pas de la crise du Covid, il ne peut même pas se représenter. À mon avis, c'est une erreur. Non, mais il ne pourra pas avoir.
Complètement, Alexis.
Il n'aura aucune chance s'il ne sort pas de cette crise du Covid.
Bah oui, mais alors,
il en est très
on conscient. On va pas en sortir, de toute manière. Parce que
on va pas en sortir. Tout dépend. Mais
on est clairement
seul. Alexis.
Il faut pas se leurrer. Donald Trump a perdu à cause de ça. Emmanuel Macron, malgré toute la propagande qu'il peut y avoir de ses troupes, la maison commune, les médias qui font sa campagne, etc. Un président qui sort de cette crise du Covid, là, il est en déplacement à Vierzon, il voit les Français fatigués, mais c'est lui qui fatigue les Français avec ses mesures. Un coup, je vous enferme, je vous sors, un coup, je vous referme, et puis il faut mettre le masque, et puis trois doses et machin. C'est fini. Les gens ne voteront pas pour lui.
Elisabeth,
c'est fini. Elisabeth. Alexis, pardon. Ouais. Pardon, mais à mon avis, vous vous trompez complètement, parce que là, vous parlez de votre sentiment et du mien d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, je supporte plus leur côté panicard, leur masque à la récré. Tout ça me paraît d'une absurdité folle, surtout quand l'OMS nous explique que cette vague est beaucoup moins grave. Sauf qu'on est très minoritaire. La plupart des Français, je pense qu'en revanche, ce sont des enquêtes qui ne sont pas des sondages comme ça, qui sont faits une fois, mais qui sont des enquêtes faites de façon extrêmement régulière. La plupart des Français qui demandent, en gros, qu'on leur épargne le risque, eh bien, ils sont très contents de ça. Alors oui, vous avez les patrons de boîtes de nuit qui ne sont pas contents. Je ne vois pas autour de moi... Au contraire, sur la crise sanitaire, je vous rappelle quand même que le pognon de dingue a coulé à flot. Sur la crise sanitaire, je ne vois autour de moi beaucoup de gens qui trouvent au contraire que Emmanuel Macron a été très bon. Non, je voudrais juste dire un mot sur l'interview de Gilles Lejeune, si je peux.
Patrick. Tout à l'heure, juste après la pause, parce que là, on va déborder.
Très bien.
Donc, juste après la pause, et puis il y a des auditeurs aussi, ma chère Elisabeth, qui veulent parler, qui veulent
Absolument,
réagir. Notamment, vous avez les boîtes de nuit. On va se mettre en ambiance boîte de nuit tout à l'heure, avant de monter sur un tracteur, avec aussi les agriculteurs qui manifestent du côté de Montauban.
Tant que c'est pas sur une trottinette.
Tant que c'est pas sur une trottinette. Et puis, on reviendra aussi sur un plan à trois. Restez bien, un plan à trois.
Ne vous sentez pas exclus, parce que ça peut vous intéresser. Restez avec nous. On revient dans un instant, 8h58.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et laissez la suite à 9h05 des grands débats avec Alexis Poulain, Elisabeth Lévy. Vos appels 0826 300 300. On va revenir sur les agriculteurs dans quelques instants qui manifestent à Montauban contre la pression continuelle des environnementalistes. Mais juste avant ça, on va faire un point avec Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin, avec vous, parce qu'il y a eu le prix de l'humour politique qui a récompensé un ministre hier. Chaque année, il y a ce prix de l'humour politique. C'est le Presse Club qui l'organise. On les salue d'ailleurs au passage. Le ministre récompensé, en l'occurrence, c'est une femme, Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté.
Oui, victoire accordée à Marlène Schiappa, bien sûr, cette séquence diffusée sur Radio J le 15 décembre dernier.
À chaque fois que je dis quelque part, il faut renforcer notre lutte contre la polygamie, il y a toujours des gens pour me dire, oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans à trois, vous allez interdire...
Dit les plans à trois ?
Absolument, moi je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour, les troupes.
Voilà, c'est sur cette séquence qu'elle l'a emporté. Mais alors, c'est l'occasion de faire une petite piqûre de rappel au jury, puisque cette phrase, Marlène Schiappa l'avait d'abord prononcée, il faut le dire, sur Sud Radio, 4 jours plus tôt. Et c'est vous, Patrick, qui l'avez souhaité rassurer. Souvenez-vous.
Je veux préciser, parce qu'il y a toujours des commentaires, des gens qui ne comprennent pas de quoi on parle. L'infidélité, le polyamour, les troubles, les plans à trois, tout ça, ça reste autorisé. Je le dis parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui nous disent à chaque fois, vous légiférez sur notre vie personnelle.
Sur les plans à trois, notamment.
Je vous rassure.
Oui, alors c'est plus sur les plans à trois que sur le polyamour.
Donc elle a eu le prix de l'humour politique pour ça. Visiblement, elle l'avait quand même en boucle, cette histoire.
C'était un argument qui est revenu.
Était revenu, puisque donc elle l'avait attribué aussi à. Enfin, elle l'avait déclaré sur Radio J, comme elle l'avait fait chez nous. C'était il y a tout juste un an. Allez, on repart sur l'actualité. Elisabeth Lévy, Nathalie, Alexis Poulain avec nous et qui évoquait tout à l'heure donc Valérie Pécresse, Emmanuel Macron. On y reviendra en fait dans un instant parce que ça rebat quand même un peu les cartes, quoi qu'on en dise, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais c'est vrai. Et puis il y a le Covid également qui est et on parlait des boîtes de nuit avec nous au 0826 330.
C'est Yann qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonjour,
oui.
Yann.
Bonjour Yann.
Oui, bonjour Patrick Roger, bonjour Cécile.
Oui.
Tout à fait. Alors oui, je voulais revenir un petit peu sur ces histoires d'interdiction. Enfin, c'est carrément une interdiction, hein, donc la fermeture des boîtes de nuit.
Boîtes de nuit, ouais.
D'abord, depuis 30 ans, on a perdu à peu près la moitié des boîtes de nuit. Moi, j'aimerais pas avoir 20 ans ou 25 ans aujourd'hui.
Non, c'est vrai.
J'en ai 54. On a connu une jeunesse un peu dorée, du coup, hein. Nous, on a vécu pas mal de choses. Mmh. On est passé à travers le cil, pas mal de choses. Les boîtes de nuit, il y a à peu près depuis 30 ans, c'est plus de 2000 boîtes de nuit fermées, c'est ce que j'ai regardé à peu près.
Ouais.
Et depuis le Covid, il y a à peu près 15% de ces 2000 boîtes de nuit fermées, puisque c'est à peu près 300 aujourd'hui qui sont définitivement fermées avec la période Covid. Hein. Quand le gouvernement dit qu'elle les aide, si elle les avait vraiment aidées, elles ne seraient pas fermées, ces boîtes de nuit, d'une part. Mais alors, il y a un truc qui me choque, moi, terriblement, c'est-à-dire que le Français moyen, lui, n'a pas le droit d'aller s'amuser, n'a pas le droit d'aller surtout pas faire les fêtes d'année, de fin d'année dans les boîtes de nuit, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui allaient faire le premier de l'an dans les boîtes de nuit.
Ouais.
Mais à côté de ça, on a des images de La République En Marche et du Modem, là, M. Guérini, M. Castex et compagnie, qui organisent une petite sauterie après un discours, une petite fête à l'Élysée, après un but marqué par le président, où ils sont sans gestes barrières, sans aucune distanciation sociale, sans masque. Ils sont en train de picoler, en train de s'amuser les uns les autres, en train de prendre des selfies. Mmh. Et alors ça m'embête un peu que le professeur Castex, là, qui nous tape sur les doigts et qui nous dit non, c'est pas bien, faites pas ça et compagnie, l'exemple doit venir du haut. Mmh. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui fait complètement le contraire. Comment vous voulez que les Français y comprennent quelque chose?
C'est vrai.
C'est juste impossible, en fait.
Ouais, non, c'est vrai. Alors, c'est, pour compléter ce que vous dites, bon, c'est vrai que c'était il y a plus d'un mois, ça, hein, cette petite sauterie, entre guillemets, à l'Élysée.
Mais on
l'oublie pas. Non, mais ça c'est vrai.
C'est ça.
Et on pense.
Les Français ont de la mémoire.
Ouais,
en fait.
Non, mais Yann, et je suis comme vous, je pense à tous ces jeunes qui, depuis deux ans, quand même, vivent un enfer. Parce que.
Il y a des chiffres.
Non, mais c'est compliqué, en fait, à tous les niveaux, quoi. Donc, et d'ailleurs, c'est la question qu'on pose sur les réseaux sociaux.
Oui. Si vous me permettez, hier, vous avez reçu aussi une secrétaire d'État là, qui nous a expliqué que les gamins dans les écoles devaient mettre le masque dans les cours de récréation à 5 ans et compagnie. Ouais. Mais quand c'est politique, là, quand M. Castex nous explique qu'il a chopé le Covid parce que sa petite fille de 11 ans lui a passé. Alors, sa petite fille de 11 ans, moi, j'ai des photos qui circulent un peu et qui circulent sur tous les réseaux sociaux. Sa petite fille de 11 ans, il a serré 150 pognes pendant au congrès des maires.
Ah, ouais.
Donc, sa petite fille de 11 ans, du coup, je ne sais pas si c'est Guérini ou d'autres. Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Très clairement. Voilà, moi, j'appelle un chat un chat.
Ouais.
Et aujourd'hui, ces gens ne font pas miaou, quoi. Voilà.
Et
ils
c'est ce que.
Vraiment pour des crétins.
Yann, je ne sais pas si vous avez entendu notre invité ce matin. Bah, c'est exactement ce que je lui disais. Hein. Je répliquais.
C'est ça.
Et c'est bien d'avoir, en fait, des invités de tous les partis, de tous bords. Parce que souvent, on nous reproche, on dit vous faites trop de gens de la Macronie. Ben non, on fait. On donne la parole à tout le monde et on leur pose des questions, quoi, hein, bien sûr.
C'est dommage, Patrick Roger, c'est que quand vous avez vos invités, on ne puisse pas leur poser des questions.
Mais il faudrait qu'ils restent. Alors c'est vrai, Yann, j'y pense.
Je pense qu'on les mettrait un petit peu mal.
Alors, j'essaie de vous relayer. J'essaie de relayer ce que vous pensez et de leur poser toutes les questions.
Sur les réseaux sociaux, bien sûr.
Mais oui, et puis moi-même, je me mets en fait à votre place. Hein, donc, mais bon, je sais, c'est compliqué. On essaiera pendant la campagne des présidentielles. Vous avez raison, on va mener ça. Et surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter.
Sur un temps plus long.
Oui, un temps plus long. Et juste une petite parenthèse, puisqu'on parlait des jeunes. Donc il y a l'interdiction. Je comprends les patrons de discothèques quand même, parce que c'est assez terrible, parce qu'ils ont fait des efforts. Alors on sait évidemment que dans les discothèques, on enlève les masques et tout, bien sûr. Mais vous avez vu, aujourd'hui, ce qui est très à la mode, ce sont les bars dansants qui marchent en fait un peu partout. Et eux ne sont pas concernés par ces directives. Heureusement d'ailleurs qu'il reste encore des endroits.
D'ailleurs, on parlait
mais c'est assez injuste.
Les clubs échangistes non plus, je crois.
Vous n'en ratez pas une, hein, mon cher Alexis.
D'ailleurs,
je crois qu'ils ne sont pas concernés non plus.
Sans rire, il y a un petit message pour vous sur les réseaux sociaux.
Oui,
on a D'accord, je vais aller voir. Ne vous inquiétez pas, Patrick, les clubs échangistes vont bien.
Allez, bon, Elisabeth Lévy n'ira pas en boîte, en tout cas, cette année. Mais je ne sais pas si elle. Elisabeth, non ?
Mais c'est quoi la différence entre un bar dansant et une boîte ?
Alors, Elisabeth, on va vous emmener. On va vous emmener, mais sauf que c'est fermé.
Patrick va vous faire le tour des bars, vous allez voir.
Voilà, voilà. Non, mais vous ne connaissez pas ces bars dansants. C'est-à-dire que vous allez dans un bar, une brasserie, un peu classique, et aujourd'hui, il y a la musique et vous pouvez danser tout en prenant en fait des verres.
L'épidémie avait repris dans la Creuse à cause des thés dansants. C'est l'auto, ah bah des lotos des aînés.
Non, ah bah mais attendez, oui, on avait
donc je crois que le pass sanitaire, il faut arrêter là. En
allez,
fait.
On va du côté de Montauban parce que les agriculteurs, avec à l'appel de la FDSEA et du JIA, les jeunes agriculteurs, manifestent aujourd'hui. Nous sommes avec Luc Mesbah, hein, c'est ça, qui est secrétaire général adjoint de la Fédération départementale là, en Haute-Garonne. Bonjour Luc Mesbah.
Bonjour.
Bonjour. Donc, vous vous donnez rendez-vous tout à l'heure à 10h, hein, aux entrées sud de la ville. Dites-nous pourquoi vous manifestez aujourd'hui, alors, Luc Mesbah.
Mais c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on manifeste parce qu'un grand ras-le-bol dans la profession agricole.
Oui.
Un agribashing, le terme à la mode aujourd'hui, des associations environnementales face à l'agriculture française. C'est pas compliqué. Je peux faire un symbole pour que les consommateurs comprennent. Mmh. On est en train de mordre la main des agriculteurs qui nourrissent la France et qui amènent de la richesse.
Ouais.
Et tout ça, tout simplement par des associations environnementales, je ne vais pas les citer autrement que j'en ferai la publicité, qui mènent un diktat au niveau de la profession agricole. Et je pense que leur constat, il suffit de voir certains dossiers, je prends un exemple qui est un sujet qui était polémique, les OGM, ça fait 30 ans que les Français en mangent et on n'en produit pas en France. Je ne suis pas pour les OGM, mais le résultat, il est là.
Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que vous estimez qu'on vous met beaucoup trop de bâtons dans les roues, vous, aujourd'hui, et que résultat, vous n'arrivez plus à vous en sortir à cause de ça, quoi.
On a un millefeuille de réglementation franco-française. On a des réglementations européennes et on nous superpose encore des réglementations franco-françaises uniquement pour des enjeux politiques et des variables d'ajustement d'un point de vue politique.
Mais au-delà des associations, environnementales, est-ce qu'il n'y a pas aussi des règlements en France qui vont trop loin ? Je pense à la SAFER notamment qui préempte des terres agricoles chaque année pour éviter la concentration. Est-ce que l'État français en fait pas trop non plus ?
Non, sur la SAFER, c'est un moyen, si vous voulez, de réguler et d'imprimer du foncier à des jeunes, notamment, qui veulent s'installer.
Ouais.
Je pense que c'est un organisme, c'est un outil, mais aujourd'hui, c'est un organisme qui permet justement la régulation du foncier et surtout l'attribution, non pas au capitalisme et à la spéculation. Parce que si on laisse le marché agricole libre, vous aurez des fonds de pension ou d'autres, ça se voit déjà, qui vont acheter du foncier agricole, pas pour des vocations agricoles, pour d'autres vocations. La SAFER, elle est là pour réguler. C'est un outil en concertation avec la profession et l'État.
Ouais. Bon, ben voilà, et donc vous allez manifester tout à l'heure. Vous êtes sur le tracteur, un petit coup de klaxon, vous pouvez ou pas en direct, Luc ?
Un petit coup de klaxon, c'est pas... Voilà. On part en convoi, l'agriculteur au Garonnais de l'Ariège, et on convoie tous vers le Tarn-et-Garonne.
Allez-y, si vous êtes sur le tracteur, coup de klaxon, non ? C'est possible ?
Oui, si, un petit coup de klaxon.
Allez, c'est parti. Voilà, et ben c'est comme ça que ça va sonner dans les rues de Montauban tout à l'heure. Merci Luc Mesbah, on voulait vous donner
bon
la parole et on vous l'avait déjà donné aussi ce matin avec Christine Bouillot, évidemment, parce que vous avez des vraies préoccupations par rapport à ça avec l'ensemble de ces pressions environnementalistes. Et il en faut, bien sûr, quelques règles, bien sûr, et il faut arrêter les dérives d'il y a quelques années, mais attention, parce que ça met une profession en danger. Merci Elisabeth Lévy, 0826 300 300, vous pouvez continuer de nous appeler parce qu'on va parler d'un autre sujet brûlant, assez terrible dans un instant et inquiétant. Hein.
Oui, on va vous parler du retour de la guerre. En tout cas, c'est le titre du livre aux éditions Odile Jacob de François Heisbourg, qui est conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui nous expliquera effectivement la géopolitique et les pays un petit peu en tension. Et on verra quelle est la réponse de la France face à ces régions dont on parle beaucoup aujourd'hui et des nouvelles armes qui arrivent.
Il y a un retour en plus de la guerre froide là, avec la Chine, quoi. Avec
ce qui s'est passé, les Américains.
Restez là, vous allez poser des questions, mon cher Alexis.
Absolument.
Restez là.
Bougez pas. À tout de suite et appelez-nous 0826-300-300, 9h17.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h20, merci d'être avec nous. Le temps de la paix est-il révolu? C'est une grande question. On en parle ce matin avec François Hesbourg. Merci d'être avec nous.
Merci.
Vous êtes conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique, ancien président et International Institute of Strategy Studies de Londres. Voilà. Et vous avez écrit ce livre, Retour de la guerre, aux éditions Odile Jacob.
Oui, François Hesbourg. Fut un temps où on se disait, on va vers la paix, tout va bien, après la chute du mur, etc. Et plus que jamais, il y a ce retour de la guerre. Alors, ce n'est pas des bruits de bottes, mais pas loin. D'où viennent ces bruits, justement, autour de la guerre?
Il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, effectivement, on a mangé un petit peu le pain blanc de l'après-guerre froide. Et pain blanc qui était d'ailleurs pas toujours savoureux. Le terrorisme a quand même peuplé notre présent pendant un certain nombre d'années, y compris en France. Mais la guerre, au sens traditionnel du terme, il y a des armées qui s'affrontent et ainsi de suite. On a l'impression que c'était fini, que la dernière, c'était peut-être les guerres de succession de Yougoslavie. Il y a déjà près d'un quart de siècle maintenant.
Ouais. Mais là, c'est assez paisible quand même.
Alors là, maintenant, on n'est plus du tout dans ce registre. On a bien sûr la montée de la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Ça, c'est l'élément structurant. Alors, les optimistes vont dire ça va être comme la guerre froide, on va se faire peur, mais il ne se passera rien. Le problème, c'est que de l'autre côté, vous avez des développements au plan technologique, au plan des armes, et qui sont très déstabilisantes.
En Chine, vous voulez dire ?
En Chine, mais pas seulement. C'est dans la nature même des choses. Vous savez, pendant la guerre froide, on savait que si un soldat tirait sur un soldat adverse en Europe, il y avait un risque de Troisième Guerre mondiale. Ouais. Et donc, on ne se tirait pas dessus. C'était très clair.
Ouais.
Maintenant, vous avez les cyberattaques. La cyberguerre, c'est tous les jours. Et puis un jour, il y aura un grand malheur parce qu'une cyberattaque, au lieu de se traduire par quelques menus désagréments perçus par un nombre limité d'acteurs, va se traduire par des centaines de morts parce qu'il y aura un élément d'infrastructure qui aura été mis par terre dans les réseaux électriques ou d'acheminement du pétrole et ainsi de suite. Et puis là, on dira, mais il faut qu'on réagisse, on ne peut pas laisser faire ça.
Et là,
tout d'un coup, vous vous trouvez sans rupture de continuité dans la guerre.
François Hesbourg, vous dites dans votre livre, on vit dans un monde sans loi.
Oui. Alors déjà, il n'y en avait pas beaucoup de lois. Le système des Nations Unies, le réseau des alliances bâties après la Deuxième Guerre mondiale, tout ça était relativement limité, mais ça permettait quand même d'avoir quelques règles du jeu communes, même au moment les plus durs de la confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles du jeu. Vous avez un chef d'État qui détourne un avion en Biélorussie. Vous avez des migrants qui sont instrumentalisés pour atteindre des objectifs politique, c'est ce qui s'est passé entre le Maroc et l'Espagne il y a 3 mois, et c'est ce qui se passe à nouveau entre la frontière polonaise. Et on a l'impression, et c'est pas simplement une impression, que ce qui a été bâti il y a 75 ans, ça fait quand même un bail, est en train de s'effilocher, est en train de disparaître.
C'est fragilisé.
Il n'y a rien aujourd'hui pour le remplacer.
Oui, et puis on verra tout à l'heure, parce qu'il y a la menace de cette autre guerre qui est le terrorisme international, avec la montée des fondamentalistes un peu partout, qui gagnent en fait des positions, on y reviendra. Mais peut-être encore un mot sur cette escalade entre les États-Unis et la Chine, avec ce boycott diplomatique qui a été décidé par les Américains. Est-ce que l'Australie emboîte le pas? On se demande ce que va faire l'Europe. Est-ce qu'il y a une menace réelle autour de ça?
Oui, bien sûr qu'il y a une menace réelle, c'est-à-dire vous avez un empire chinois qui est la nouvelle superpuissance montante, et vous avez les États-Unis qui s'accrochent à leur position acquise. Ça, c'est une recette historiquement assez classique pour déboucher sur un état de tension à peu près permanent. On peut éviter la guerre, c'est ce qui s'est passé entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'était la même situation il y a 50 ou 60 ans. Mais il n'y a aucune assurance que cette confrontation sera stable. Et puis il y a par ailleurs Et c'est un bruit de botte. Vous parliez de bruit de botte.
Oui, tout à l'heure.
Alors,
oui.
Il y a un vrai bruit de botte actuellement autour de l'Ukraine.
Hein. Autour c'est... de l'Ukraine, oui. De nouveau, les troupes, c'est ça, de Poutine qui se masse
Non, c'est très sérieux. C'est-à-dire les...
Mais qu'est-ce que veut Poutine, en fait?
Alors, Poutine, il dit très clairement ce qu'il veut. Hein. Il ne veut pas reconnaître le droit de l'Ukraine à son indépendance et à la plénitude de sa souveraineté. Il est très clair là-dessus. Hein. Il n'y a pas d'un côté et de l'autre côté, il veut un engagement écrit de la part des puissances occidentales, dont nous autres, sur le thème, mais jamais on ne va permettre à un pays tiers de rejoindre l'Alliance Atlantique. Ça, ce sont des revendications qui ne sont pas ambiguës, elles ne sont pas équivoques, elles sont... Un petit problème, c'est qu'elles ne sont pas facilement acceptables, bien sûr pas par les Ukrainiens, pour commencer par eux, et pas tellement plus non plus de la part des États d'Europe et d'Amérique du Nord. Moi je ne sais pas comment l'épisode actuel va se conclure. Les discussions qui ont eu lieu hier entre Vladimir Poutine et Biden n'ont pas été... très encourageante, hein, à en croire la lecture des comptes rendus du Kremlin et de la Maison-Blanche. Et donc voilà, ça aussi, voilà un conflit assez typique de ce qui nous attend.
Oui, et on ajoute à ça, et on y reviendra dans un instant, François Hesbourg avec vous, auteur de Retour de la guerre aux éditions Odile Jacob. On parlera aussi de la pandémie qui a probablement accéléré ou bougé aussi un petit peu les choses sur l'échiquier mondial. On y revient dans un instant. Et si vous avez des questions à poser d'ailleurs directement aussi à François Hesbourg, vous n'hésitez pas, vous nous appelez. Et puis tout à l'heure, dans 10 minutes aussi, dans un quart d'heure, on parlera. Est-ce que vous avez compris quelque chose à l'électrique, l'hybride et l'hybride rechargeable? Absolument. Pour les voitures. Parce que là, François Hesbourg, vous avez compris ou pas?
Non.
On va tout vous dire dans La France à vos côtés. On vous
c'est
dit
pas
tout,
de mon
justement.
Côté que vous allez trouver la clé.
Dit tout dans 10 minutes, un quart d'heure.
François Hesbourg, vous avez 2 heures. A tout de suite, c'est le Grand Matin Sud Radio, 9h27.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h31, le titre de ce livre est clair, Retour de la guerre aux éditions Odile Jacob. Avec nous pour en parler, François Hesbourg, qui est conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Oui, on parlait de cette escalade entre la Chine et les États-Unis, on parlait aussi de Poutine et des bruits de bottes aujourd'hui autour de l'Ukraine. Il y a beaucoup de mouvements comme ça qui restent en fait inquiétants. Il y a le terrorisme international qui est toujours là et qui menace beaucoup, hein, du Sahel à l'ensemble en fait du Moyen-Orient. Et puis, il y a la pandémie qui est venue... D'ailleurs, on a utilisé le mot « guerre », hein, François Hesbourg. Je ne sais pas si c'était à bon escient, d'ailleurs.
Alors, le paradoxe, c'est que c'est à bon escient. Bien sûr, le virus n'est pas un état, n'est pas un être pensant.
Un accélérateur.
Mais c'est du vivant. Et le virus s'adapte aux réponses qu'on lui apporte. Il y a un aspect campagne militaire entre guillemets des deux côtés.
Bah d'ailleurs, il y a eu, alors ça c'est des théories du complot, mais quand même il y a eu beaucoup d'interrogations parce que ça venait de la Chine. Hein,
alors
bien sûr.
Alors ça c'est c'est un autre sujet, mais il est vrai que la Chine n'a fourni aucune donnée probante sur les origines de ce virus. Alors la Chine dit non, on n'a rien fait, c'est pas nous. Si c'est pas eux, c'est qui? C'est peut-être une chauve-souris, c'est peut-être un pangolin, c'est peut-être ceci ou cela. Mais en attendant, on est là pratiquement 2 ans après l'apparition des premiers cas à Wuhan au mois de décembre 2019. Nos amis chinois ont été, si j'ose dire, infoutus de nous apporter des explications et visiblement, ils n'ont pas voulu fournir les données nécessaires aux enquêteurs de l'Organisation
Mondiale
de la Santé.
Ils l'ont peut-être, l'explication, mais c'est vrai que c'est un autre sujet, mais s'ils étaient connus comme responsables d'avoir pas volontairement, bien sûr, mais travaillé sur les des coronavirus, hein, des chauves-souris, puisqu'il travaille en fait dans des laboratoires, et puis qu'il y a eu une fuite à un moment donné, il serait responsable quand même de ça.
Ah, ça, et ce ne serait pas très bon pour la réputation du gouvernement chinois, à la fois à la face du monde, mais aussi face à l'opinion chinoise à elle-même. Donc, moi, je suis le premier à dire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais visiblement, il s'est passé quelque chose. On saura un jour. Mais sur l'impact de la pandémie, ce qu'on a vu, et ce qui était un peu inattendu avec la pandémie, vous avez un défi mondial qui émerge. Au bout de quelques semaines, on en prend la mesure. Tout le monde dit, ah mais ça c'est épouvantable, ça va affecter la Terre entière. C'était parfaitement exact, ça va affecter la Terre entière. Bah, logiquement, politiquement, on aurait dû faire le pacte entre les Chinois, les Indiens, les Européens, les Américains, et ainsi de suite. C'est un peu comme si les extraterrestres débarquaient.
Tous ensemble, quoi.
Tous ensemble, pour faire face à un défi qui, lui, ne fait pas de discrimination entre les différents acteurs. Ben, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En dehors des scientifiques et des experts en épidémiologie, et ainsi de suite, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a affronté le défi, la menace, en ordre dispersé, et on a assisté à une exacerbation des nationalismes et des égoïsmes nationaux, la montée en arrogance de la Chine, qui s'est mise à faire la leçon à la Terre entière, en disant, hey, regardez-nous, nous on a des masques, souvenez-vous les masques au début, là, nous on a des masques, nous on a su faire, bon, en attendant, on est là, 2 ans plus tard, avec une Chine qui est claquemurée, dont même le président ne peut pas sortir de chez lui, parce que dès qu'il y a un cas en Chine, il faut tout fermer. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit une grande réussite, mais les Chinois, qui sont devenus extraordinairement arrogants, les Américains, on se souvient de Trump, qui a traité l'affaire tantôt par le mépris, tantôt, là encore, de façon totalement égoïste.
Mais en mettant de l'argent quand même dans la recherche pour que
en train de dire que Trump a eu tout faux.
Non, mais bien sûr.
Ce que je suis en train de dire, c'est que Trump, à l'instar de bien d'autres, a joué la carte de l'égoïsme. Il a sorti les États-Unis de l'OMS. Peut faire toutes sortes de critiques à l'égard de l'OMS, je suis le premier à le faire, mais sortir de l'organisation et dire « moi je fais ça tout seul, comme un grand », et c'est pas exactement...
C'est envoyer un mauvais message.
C'est envoyer un message qui n'est pas du tout celui de l'unité de l'humanité face à un défi. Et donc, on se retrouve face à un paysage international éclaté par la pandémie. C'est pas que la pandémie a créé le mauvais état des relations entre l'Occident et la Russie ou entre la Chine et les États-Unis, mais elle a accéléré, elle a accentué tout ce qui allait dans ce sens avant même la pandémie.
Je voulais revenir sur un point qui est quand même très inquiétant, parce qu'on parle beaucoup de l'armement, l'armement du futur, et je reviens sur cet été, en fait la Chine a lancé en août un missile hypersonique en orbite, nucléaire, qu'il peut envoyer sur n'importe qui, à n'importe quel moment, sans peut-être même qu'on s'en rende compte.
Oui, alors...
ça, c'est grave.
D'abord, vous avez raison, c'est grave.
Oui.
Je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent. J'ajoute aussi que ce n'est pas l'aspect le plus novateur, ni même le plus inquiétant de ce que font les Chinois dans ce domaine. Khrushchev, le type là, début des années 60.
L'URSS,
il avait lancé les travaux dans ce domaine, déjà. Et une des raisons pour lesquelles ces travaux avaient été largement arrêtés dans les différents pays, c'est que stratégiquement, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, ce qui a du sens, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que les Chinois ont fait dans ces essais, ce qu'on appelle l'hypervélocité.
Oui.
C'est-à-dire le fait de disposer d'armes qui vont tellement vite qu'on n'a pas la possibilité d'en connaître à l'avance la trajectoire et le point d'arrivée.
Oui, parce que certaines passent le mur du son.
Largement. Oui. Plus de 5 fois la vitesse du son, jusqu'à 17, d'ici 18 fois la vitesse du son. Et tout le monde, j'ajoute, tout le monde travaille là-dessus maintenant. Les Américains, les Russes, Chinois bien sûr, la France. Nous allons tester prochainement un prototype d'arme hyper-véloce qu'on appelle le VMAX. On le fait pourquoi ? Parce que les autres le font. Oui, on est dans une logique de course aux armements.
Il faudrait pouvoir
Ça continue la course aux armements. Alors,
ça reprend plus d'ailleurs.
Oui, ça reprend. Alors, il y a quelques années, on disait non, mais il faut arrêter. On était sur le désarmement.
Oui, et puis en plus, comme les principaux défis étaient ceux du terrorisme, bon, le terrorisme, ça ne se combat pas avec des armes hyper-véloces. Hein, on est hors sujet. Aujourd'hui, on est dans un nouveau paysage géopolitique.
C'est très inquiétant quand même.
C'est bien pour ça que j'ai écrit ce livre.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai parlé du retour de la guerre. Et on est dans des logiques qui ressemblent plus aux logiques de la première moitié du XXe siècle que dans la logique de la fin du XXe et du début du XXIe. Il va falloir recommencer à raisonner comme si nous avions à faire face, parce que nous avons à faire face à des risques de guerre conventionnelle. Et ces armes dont vous parliez, madame, non seulement, bien sûr, elles sont réelles, tout le monde travaille dessus, mais elles sont, comme on dit dans le jargon, extraordinairement déstabilisantes. C'est-à-dire, lorsque un chef d'État se trouve face à une crise dans laquelle ce type d'armes risque d'être utilisé, il y a une incitation, il y a une prime au tir en premier, à être le premier qui tire, ne pas attendre de se faire tirer dessus par une arme que l'on ne peut pas arrêter ou gérer, et comme on pouvait le faire naguère avec les fusées balistiques dont on connaissait le point d'arrivée. On pouvait proportionner la réponse, on pouvait gérer la crise, parfois avec difficulté, comme la crise des fusées de Cuba, les années 60, mais on savait gérer. Là, on ne sait plus gérer. Et c'est ça qui est particulièrement inquiétant.
Merci. Retour de la guerre aux éditions Odile Jacob. Merci François Hesbourg d'être venu ce matin. C'est passionnant et en même temps, malheureusement, un peu inquiétant.
Avec
ce qui se passe, évidemment, aujourd'hui. Allez, dans un instant, la France à vos côtés. Vous savez, comme chaque matin, on vous explique où on vous aide, où on vous guide sur certaines choses. Et là, on va vous parler, même François Hesbourg, voilà, qui connaît beaucoup de choses, évidemment.
Il va rester, comme ça il va prendre des notes.
Je donne ma langue au chat.
Sur l'hybride rechargeable. Parce qu'aujourd'hui, une voiture sur 10 qui est vendue est électrique. Mais il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui disent, oui, mais si je veux aller d'Orléans à Perpignan, par exemple, comment je fais
pour recharger, etc.
Ben, ça, c'est, ben non, c'est pas trop possible.
Voilà.
Donc, d'où le fameux hybride, mais pas l'hybride classique, mais l'hybride rechargeable. Avec la prise en fait électrique,
oui,
pour faire
un
certain nombre de kilomètres.
Ça ne se recharge pas avec les roues, c'est une prise.
C'est ça. Allez, voilà, on va tout vous dire dans un instant.
Avec le directeur général de Mitsubishi France, Christophe Cyril, président du groupe 1807 Mobility Group. À tout de suite.